Voici votre émission Antiquissimo.
Dédiée, comme son nom l'indique,
à l'Antiquité.
Archéologie.
Reconstitution.
Histoire.
Fiction.
Livre. Et film.
L'Antiquité avec un grand A.
L'Antiquité vivante.
L'Antiquité polymorphe qui nous unit tous.
Avec cette émission d'Antiquissimo que je baptise Semper Jésus, Jésus toujours, je mets une nouvelle fois à contribution Claude Aziza, que je salue.
Bonjour.
Pour évidemment sa grande érudition chaque fois qu'il est question de Jésus, mais pas seulement, chaque fois qu'il est question de cinéma, chaque fois qu'il est question d'Antiquité. Alors ici, nous allons faire coup double, peut-être même coup triple, pour cette émission, car nous allons bien évidemment, si je parle de Jésus, célébrer Pâques. C'est bien sûr la bonne période pour le faire, Pâques qui arrive à toute allure. Et en même temps, célébrer un Jésus qui est incarné en des films, lié à une date bien précise, la date de 1926, puisque régulièrement avec vous, Claude Aziza, nous égrenons les anniversaires.
Absolument.
Donc là, nous allons parler en trois petites fois d'un acteur et de deux réalisateurs qui sont nés en 1926. Et je vais d'abord commencer par vous demander de parler un tout petit peu de Pâques, avant d'égrener nos trois rubriques.
Voilà. Donc, nous allons célébrer cette année, presque simultanément, la Pâques juive et les Pâques chrétiennes. Je voudrais simplement indiquer que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est en fait le même mot. Qu'on a rajouté au XVe siècle seulement un S pour différencier la Pâque chrétienne de la Pâque juive. Donc, les Pâques, je veux dire, ça n'a pas de sens. C'est simplement une graphie au pluriel. Les deux fêtes ont le même sens. Et ce sens, c'est que nous indique le mot Pâques. Le mot Pâques, ça veut dire le bon, le saut. Ça veut dire que lorsque Jéhovah frappe les demeures égyptiennes, il saute par-dessus les demeures des Hébreux qui sont marquées d'une croix. C'est pour ça qu'on appelle le sceau. Ce n'est pas le sceau à travers la mer Rouge, c'est le sceau à travers les maisons.
D'accord.
Cette thématique se retrouve évidemment dans les Pâques chrétiennes, puisque dans les deux cas, par exemple, on va consommer, par exemple, de l'agneau pascal chez les Juifs et chez les chrétiens. Et le repas qui précède la mort de Jésus, ce qu'on appelle la scène, ben se retrouve évidemment, forcément, dans la Pâque juive. Et ensuite, même si, bien sûr, elle ne mentionne pas Jésus, et ensuite, dans les Pâques chrétiennes. Donc, il y a un fond. Il est d'ailleurs tout à fait amusant de constater que s'ajoute une coutume romaine, car lors du repas pascal, juif, on doit manger en s'allongeant sur le coude gauche, qui est, selon la tradition, la posture d'un homme libre. Voilà. Voilà pour Pâques.
Alors donc, joyeuse Pâques à l'avance pour tous. Et nos trois films, nos trois interventions, incarnations de Jésus, on va les annoncer tout de suite. Ces trois œuvres sont liées donc à la date de 1926, nous l'avons dit. Ce sera Le Roi des Rois, ce sera Jésus Superstar, et ce sera enfin La Folle Histoire du Monde, dont nous allons ensuite, nous allons conclure. Alors commençons par la première, celle que nous avons choisi d'analyser tout d'abord, Le Roi des Rois, incarné par un acteur né en 1926, Jeffrey Hunter.
Oui. Je me permets d'abord de faire une toute petite parenthèse sur l'année 1926, qui est une année très importante pour la France et pour le cinéma, parce que c'est en 1926 qu'on ouvre la cinémathèque scolaire de la ville de Paris.
D'accord.
Et qu'à ce moment-là, le cinéma a droit de cité à l'école. Donc ce n'est pas une date
anonyme.
Voilà. Alors, commençons par,
Jeffrey Hunter,
par Le Roi des Rois. Donc, étant donné qu'il s'agit d'un acteur, on va examiner, je vais parler de l'acteur et ensuite du réalisateur, forcément.
Oui.
Alors l'acteur, c'est Jeffrey Hunter, Bogos.
Oui, d'ailleurs, avec quelques humour, on l'avait baptisé Jésus adolescent.
Voilà, Bogos, sympathique, qui est d'abord pratiquement un acteur de western, car il a tourné dans le plus grand western de John Ford, c'est-à-dire La prisonnière du désert, et ensuite il tournera dans un autre grand western, Sergent Noir. Ceci, La prisonnière du désert en 56 et Sergent Noir en 61. Donc avant le Sergent Noir, donc avant Le Roi des Rois qui est 61.
Alors, 61, oui.
Jeffrey Hunter n'a pas eu de chance parce qu'il est mort très jeune. Il est né en 26, donc il est mort en 69. Pourquoi ?
Il est mort à 43 ans.
Oui, il est mort d'un
accident.
Alors
que, pour l'anecdote, on peut dire aussi que, parce que ça se dit très souvent, ça se lit très souvent, qu'au moment du tournage, il avait 33 ans, l'âge de Jésus, lors de sa mort et de sa résurrection.
Voilà. En fait, il est mort un peu bêtement, puisque en novembre 68, il tourne un film. Il y a une fenêtre qui lui explose au visage. Donc, il en reste beaucoup de séquelles. Et ensuite, lors d'un tournage d'un autre film, en mai 68, il trébuche dans l'escalier, il tombe et il se fracasse le crâne, donc il va mourir après. Voilà. Alors, sa première expérience, bizarrement, est une expérience antique, puisque en 1950, il va jouer dans une adaptation du Jules César de Shakespeare.
D'accord.
Voilà. Même s'il ne joue pas le plus grand rôle. Alors ensuite, on a une série de westerns dont j'ai parlé, et il terminera sa carrière antique en 63 avec L'Or des Césars, où il aura comme partenaire Mylène de Mongeau, qui dans ses souvenirs en parle avec beaucoup d'amitié et d'affection. Elle a été sensible au charme de Jeffrey Hunter. Alors, en 61, c'est Le Roi des Rois.
Réalisateur, donc, Nicolas Ray.
Nicolas Ray. Alors, la prestation de Jeffrey Hunter n'a pas satisfait tous les critiques. Donc, effectivement, il n'était pas, semble-t-il, d'après beaucoup de critiques, dont je ne partage pas l'avis d'ailleurs, il n'était pas tout à fait fait pour ce film. Alors, c'est quand même très injuste, parce qu'il compose, il y a beaucoup d'acteurs qui ont fait, puisqu'on est en 61, en 63, on aura la plus grande histoire jamais contée, avec Max von Sydow qui fait le rôle de Jésus. Bref, il y a énormément d'acteurs, mais personnellement, je trouve que c'est un des meilleurs. Et je voudrais m'attarder un petit peu sur le film. Pourquoi ? Alors, c'est un film de Nicolas Ray. Nicolas Ray, qui lui n'a rien à voir avec 1926, puisqu'il est né en 1911 et qu'il est mort en 1979. Nicolas Ray n'est pas étranger au péplum, même si son domaine de prédilection, c'est le western. C'est le western, pourquoi ? Parce que en 54, c'est Johnny Guitar. C'est un des plus grands westerns qui soit. Et en 56, ce n'est pas un western, c'est La Fureur de Vivre, avec James Dean.
Et, oui.
Et à la suite de ça, James Dean va mourir et Nicolas Ray en ressentira un chagrin immense toute sa vie parce qu'il prétend qu'il est l'héritier matériel de James Dean. Ce qui, semble-t-il, n'est pas le cas. Alors, en 1952, il va tourner Androclès et le lion, vous savez, c'est une adaptation d'une comédie de Bernard Shaw, où il n'est pas crédité au générique. Crédité au générique, ça veut dire que ce n'est pas lui. Il tourne une partie, mais on ne voit pas son nom comme réalisateur, ça arrive très souvent. Et en 51, Le Roi des Rois, et il terminera d'ailleurs sa carrière antique en 68 en tournant une adaptation de l'Œdipe de Sophocle. Voilà. Donc, il connaît bien l'Antiquité. Alors, pourquoi j'insiste sur Le Roi des Rois, que je trouve plus intéressant historiquement que la plus grande histoire jamais contée et que tous les films qui tournent autour des années 60, autour de Jésus. Pourquoi ? Parce que, pour la première fois, on voit dans Le Roi des Rois, en prologue, Pompée, qui investit Jérusalem en moins 63 ou 64 avant Jésus-Christ, on ne sait pas, qui entre dans le temple. Et alors on voit quand même une scène hollywoodienne, c'est-à-dire le Romain, qui n'est corroboré par rien, le Romain rentre dans le temple à cheval, C'est bien un Romain qui me rentre à cheval, il arrive devant le temple.
Un sacrilège.
Voilà, un sacrilège. Il se trouve devant le Saint des Saints. Hein, le Saint des Saints est protégé par un voile, si vous voulez. Et il en ressort et il a les rouleaux de la Torah. Alors il y a toute une série de juifs, de vieux juifs momifiés. On dirait les évangiles momifiés qui tendent vers lui des mains suppliantes et Pompée, en romain magnanime d'ailleurs, que Cicéron, son ami, louera beaucoup, leur tend les rouleaux sacrés. Voilà. Et donc c'est la première fois, alors ensuite il y a l'histoire de Jésus, c'est la première fois qu'on voit quand même cette illustration de Pompée dans Jérusalem et surtout la façon dont les Américains voient la scène, c'est-à-dire un Romain, mais un Romain magnanime. Et il ne peut monter qu'à cheval,
forcément.
À toute allure, forcément. Voilà. C'est pour ça que le film me paraît très intéressant. Pour le reste, c'est l'histoire de Jésus, bien entendu. Il y a quand même quelque chose, c'est que, en général, dans les histoires de Jésus, apparaît au second plan Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste n'est jamais joué par n'importe qui. Par exemple, dans la plus grande histoire jamais contée de Stevens, il est joué par Charlton Heston. Et là, il est joué par un des plus grands acteurs hollywoodiens, qui est Robert Ryan. Donc, ce film me paraît intéressant à énormément de points de vue. Il est accessible en DVD et j'en recommande la vision à vos auditeurs.
D'ailleurs, pour les trois œuvres que nous allons dans cette émission commenter, ils sont tous accessibles en DVD, c'est déjà un bon point. Alors, il est temps de passer maintenant à l'adaptation cinématographique de l'opéra rock homonyme de Tim Rice et André Lowe Weber, créé en 1970. Et nous allons parler maintenant de Jésus Superstar.
Alors, Jésus Superstar pose un problème. Plusieurs problèmes, d'ailleurs. Toutes les adaptations musicales des films antiques posent des problèmes. Le réalisateur Norman Jewison, qui s'est plaint que toute sa vie, on l'ait considéré comme un juif et qu'il ait subi l'antisémitisme.
Il a dit qu'il avait été persécuté.
Jewison, ça veut dire le juif, oui. Alors qu'il était protestant, c'est un Canadien.
Oui.
Et il est né en 26 et il est mort en 24, à 98 ans.
Oui.
Et ça conserve, les vies de Jésus conservent. Et donc... Et c'est un réalisateur extrêmement intéressant. Peut-être quelques mots sur sa filmographie, parce que c'est intéressant.
Oui, parce que les films musicaux, il connaît. Oui, hein. Alors, il a fait Un violon sur le toit.
67, Dans la chaleur de la nuit, avec Sidney Poitier et Rod Steiger. C'est-à-dire, la première fois, un inspecteur noir enquête dans une ville du Sud. Bon. Hein. En 68, L'affaire Thomas Crown.
Oui.
Avec Steve McQueen. C'est quand même assez extraordinaire. En 73, avec Topol, Un violon sur le froid. Hein, voilà. Et la même année, Jésus Superstar. Et il terminera par un film magnifique qui s'appelle Rollerball, et qui voit des jeux du futur, si vous voulez, dans un futur qui, à l'époque, était les années 2000, et qui, pour nous, est du passé. Alors, Jésus Superstar...
Eh bien, je vais vous interrompre. Vraiment quelques instants,
voilà,
parce
justement.
Que nous allons passer un petit bout de cette musique. Je vous laisse le soin de dire quelle est cette musique et on en reparlera après.
Oui, voilà. Alors, on va passer, puis c'est une comédie musicale, un des plus célèbres morceaux qui s'appelle The Temple, le temple.
Alors, nous l'écoutons et on se retrouve tout de suite après.
Thank you.
deuxième partie de cette émission Antiquissimo, Semper Jésus, Jésus toujours. Et c'est toujours Claude Azizard qui égrène quelques œuvres en rapport d'une part avec la fête de Pâques et d'autre part avec la date de 1926. Et nous étions en train de parler de ce Jésus superstar et de cette musique encore.
Alors, d'abord, quelques mots sur le film. Joe Winson a été taxé, à mon avis, un peu injustement d'antisémitisme. Pourquoi ? Parce qu'il présente un Jésus un peu, comment dire, un peu révolutionnaire, ce qui n'est pas antisémite.
Oui.
Ça ne me paraît pas du tout antisémite. Mais, en même temps, il montre les autorités, les gardiens du temple, si j'ose dire, les prêtres du temple, comme des espèces de mannequins figés qui observent Jésus et qui guettent chez lui la moindre faute, ce qui n'est pas tout à fait conforme. Alors, cette histoire du temple me paraît très intéressante parce que dans la séquence que vous verrez, j'espère, en DVD, on voit donc le temple et puis on a des chansons. Cette chanson est là en train, c'est un chœur hein, qui chante et qui explique que dans le temple, il y a évidemment les marchands du temple et qu'on vend de tout. Alors, on vend des armes, on vend de la poudre, on vend des colifichets, il y a des femmes.
On dirait un grand supermarché.
Oui, oui, pas tout à fait. C'est un supermarché, en même temps, doté d'un lupanard, parce qu'on voit des femmes qui s'affichent, qui se tortillent, etc. Un innocent qui est là, qui en propose de la drogue, des armes, des femmes.
Bref, tous les vices modernes, voilà. Tous les vices de l'Occident.
Jésus arrive, il commence à hurler, et d'un seul coup, il jette tout. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça reprend une anecdote, bien sûr, du Nouveau Testament. Qu'est-ce que c'est que cette histoire des marchands du temple qui est interprétée, à mes yeux, à contresens ? Qu'est-ce que nous dit Jésus ? Il chasse les marchands du temple parce que les marchands du temple font des bénéfices. Des bénéfices sur quoi ? Eh bien, c'est-à-dire que quand on en va dans le temple en pèlerinage, surtout pour la Pâque, on sacrifie des animaux. Et quand on vient du monde entier, on ne peut pas venir avec son mouton, son chef, son oiseau. Il faut les acheter au temple. Et on les achète au temple à des marchands. Donc ces marchands font du bénéfice. Mais en fait, ce n'est pas exactement ça. Ça veut dire que pour ceux qui connaissent Pompéi, quand vous sortez de Pompéi, que vous achetez un guide de Pompéi, si vous l'achetez à la porte, il coûtera deux fois plus cher que si vous l'achetez à 200 mètres de la porte. C'est-à-dire donc, les marchands augmentent leur prix, plus ils sont proches du temple. C'est la loi de l'offre et de la demande, si vous voulez. Donc il y a aussi un problème de parité. Ça veut dire que avant l'euro, par exemple, si vous alliez dans un endroit, mettons en Italie, il fallait changer des lires. Si vous voulez changer à votre banque, le taux est intéressant. Si vous voulez changer à la gare, le taux est beaucoup moins intéressant. Donc, en fait, c'est un problème commercial qui ne justifie pas le fait que ces marchands sont en train de souiller le temple. Ce n'est pas d'ailleurs ce que veut dire Jésus. Jésus dit que finalement, ces marchands n'ont pas lieu d'être dans l'ensemble. Parce que le temple est un lieu pur. Mais c'est naïf aussi. Où va-t-on acheter alors à ce moment-là les animaux qu'il faut sacrifier ? Puisqu'on ne peut pas rentrer dans le temple sans, quand on est juif, hein, bien sûr, sans sacrifier un animal. Ou une volaille. Vous voulez. Voilà. Voilà l'épisode du marchand du temple. Et il est vrai que dans Jésus Superstar, la modernité n'arrange pas les choses, si vous voulez, puisqu'on voit des prostituées, on voit de l'arme, des armes, on voit de la drogue, si vous voulez. Bon.
Oui, c'est un univers très sale.
Voilà. Voilà pour Jésus Superstar, mais j'aime beaucoup ce film.
Et là, on n'a pas parlé de l'acteur. Est-ce qu'il y a quelque chose à en dire ? Ted Neely ?
Oui, alors, il n'y a rien à en dire.
Ah bon ?
Voilà. C'est un acteur de comédie musicale, il chante bien, il est bon dans les aigus d'ailleurs, puisque la chanson The Temple se termine par un hurlement de Jésus qui arrive et qui casse tout.
D'accord.
Ça, c'est intéressant d'ailleurs. On va retrouver d'ailleurs cette même scène de Jésus qui casse tout dans un magnifique film sur Jésus, hein, et qui s'appelle Jésus de Montréal, qui est un film canadien de Denis Arcand, que j'aime beaucoup.
Et moi, je l'aime
la
pas
meilleure
du
adaptation de Jésus. Je sais que vous ne l'aimez pas beaucoup. Et justement, dans un... Bon, voilà. Jésus va jeter du matériel.
Mais là,
de
on est dans
photo.
Une transposition.
Voilà, on est une transposition dans le monde moderne. Mais je pense qu'il faut voir ce film.
Mais pour parler de ce dernier film et de celui que nous évoquions, le film musical, le point commun, c'est le Canada. Non ?
Oui. En fait, pas le même Canada, parce que Denis Arcand, que je connais, que j'ai invité à la fac, est un Québécois.
Oui, tandis que nous parlions du Canada de Toronto tout à l'heure.
À Toronto, c'est ça. Voilà.
Alors, il est temps de passer à notre troisième et dernier film, toujours dans cette double optique plusieurs fois signalée, donc dans Antiquissimo Radio Alliance Plus. Et là, nous sommes partis en 1981 avec La folle histoire du monde.
Alors, d'abord, le réalisateur n'est pas n'importe qui, pour plusieurs raisons. Il s'appelle Mel Brooks, il est né le 28 juin 1926. Il est toujours vivant. Donc le 28 juin, on va célébrer, j'espère, son centenaire. Alors Mel Brooks, Mel Brooks a fait pratiquement toute sa carrière dans la dérision. Il commence par un succès mondial des producteurs. Il a été couronné de récompenses. Alors, pour vous dire...
Oui, quand on regarde son palmarès, il est réalisateur, acteur, producteur, scénariste, compositeur. Il a tout fait.
Ce qui est intéressant, c'est qu'en 1974, il fait Frankenstein Junior. En 93, Sacré Romain des Bois. En 95, Dracula, mort et heureux de l'être. Donc, vous voyez, c'est sa spécialité. Alors, dans La folle histoire du monde, hein, qui date de 80, où il y a plusieurs parties. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a une première partie qui est préhistorique, où c'est un
L'âge de pierre.
C'est un pastiche de 2000 ans d'essai de l'espace. Fait que dans 2000 ans d'essai de l'espace, ça commence par un os qu'on jette et puis qui se transforme en fusée. Et là, c'est un os qu'on jette et puis ça termine par une branlade, si j'ose dire, un onanisme général des ans de la préhistoire.
Alors, et il y a une histoire musicale aussi.
Oui, oui, il y a un sketch sur l'Antiquité. Enfin, une partie sur le Moyen-Âge et une partie sur... la Révolution française.
Oui, l'âge de pierre, c'est la préhistoire. Le temps de la Bible avec Moïse, le temps de Rome, et puis ensuite, effectivement, le Moyen-Âge, etc.
Voilà. Alors, dans ce film, Mel Brooks va jouer plusieurs rôles. Il va jouer le rôle de Louis XVI. Il jouera le rôle de Torquemada dans une espèce de ballet qui ressemble au ballet d'Esther Williams. Et il va
ballet
jouer...
Ballet aquatique, alors.
Aquatique. Il joue le rôle de Moïse, un Moïse un peu curieux.
Ça, c'est dans le temps de la Bible.
Dans le temps de la Bible. Pourquoi c'est un Moïse qui s'adresse à Jéhovah et que Jéhovah n'entend pas. Alors, à la fin, ça se termine, Jéhovah hurle et Moïse lui dit « je suis pas sourd ». Et en même temps, il lui donne... trois tablettes de pierre en disant voilà, Dieu te donne. Alors, il les tient les trois, il en laisse tomber une et il dit j'ai les 10 commandements, au lieu de dire le 20 commandements. On apprend comme ça qu'on a oublié 10 commandements. Alors, ce qui nous intéresse là, c'est qu'il va jouer le rôle en quittant Rome, n'est-ce pas ? Ils arrivent en.
Donc, on est dans la partie qui s'appelle le temps
Judée,
de Rome.
Voilà,
oui.
Ils arrivent en Judée. Et en Judée, donc, ils arrivent dans une auberge et ils ont besoin de travailler. Et donc, le Mel Brooks s'engage comme serveur.
Il joue le rôle de Comicus.
Comicus, qui est un serveur. Alors, le patron, il y a un dîner magnifique, le patron lui dit, voilà, on a un groupe qui s'est installé là pour faire un dîner. Non, il faut que tu vendes le vin chaud parce qu'il n'arrive pas à se passer. Donc, Comicus arrive et puis il y a, évidemment, il y a Jésus et ses apôtres. C'est la scène. Donc, on a toute une série de sketchs où il demande est-ce qu'il faut une addition séparée ? Est-ce que je vous conseille ? Il est là, il fait son boulot.
Est-ce qu'on partage la note ?
Est-ce que vous voulez ceci ? Un peu de vin chaud, hein ? Bon, il s'adresse à Jésus. Chaque fois, comme on ne lui répond pas, il dit oh, Jésus ! Et Jésus lui dit oui. Et donc, voilà. Alors, il faut voir ça, c'est très amusant. Puis finalement, entre un peintre qui s'appelle Leonello. Et Leonello dit, bon, je viens faire le portrait de groupe que vous avez demandé. Donc, il réunit tous les apôtres qui sont là, il sort son pinceau, et il commence à les peindre, et comicus. Et derrière Jésus, il tend son plateau derrière, ce qui fait une auréole. Mais Jésus, il s'agit bien entendu du célèbre tableau de Léonard de Vinci. Je peux vous dire qu'avec Mel Brooks, on ne s'ennuie jamais.
Oui, voilà. C'est une jubilation perpétuelle.
Perpétuelle.
Et là, donc, on est dans un Jésus qui est un Jésus de parodie.
Oui, parce que, comment dire, c'est toujours comme ça. Donc, on a les œuvres sérieuses. Et ensuite, au cinéma, hein. Et puis ensuite, on a deux branches qui se séparent. On a le même thème en porno et le même thème en dérision. Alors ici, on va évidemment en dérision, bien sûr. Et c'est comme ça. Ça veut dire que vous attendez une dizaine d'années ou quinzaine d'années, puis ça repasse comme ça. Puis après, ça revient au sérieux, puisque le dernier film est un film... honteux, ignoble, c'est 2004, La Passion de Jésus de Mel Gibson, hein, dont l'antisémitisme a été condamné partout,
oui.
Bon, voilà à peu près. Hein. Et puis, on attendra après, c'est compliqué à Jésus, mais ça revient toujours. Hein, Saint-Père Jésus, ça veut dire sans arrêt, on a et on aura des films sur Jésus.
Eh bien, nous allons conclure et vous remercier, Claude Aziza, pour ces précieuses indications qui ont autant à voir avec le cinéma, une sorte de péplum, hein, puisqu'on parle quand
absolument.
Même de l'Antiquité, le cinéma et en même temps le côté sacré, Jésus.
Absolument.
Joyeuse Pâques à tous.
Joyeuse Pâques.